depuis le 11 septembre, ce fameux 11 septembre, il y a eu une sorte d'accélération du phénomène, car les fanatiques de tout poil, les fondamentalistes, se sont sentis pousser des ailes et ont cru que le 11 septembre était une victoire pour le monde oriental contre le monde occidental. Et quand je dis le monde oriental, j'entends un autre monde qui n'est pas celui particulièrement d'une religion, mais simplement et malheureusement donc d'un grand nombre tout de même de fondamentalistes qui se trouvent aussi bien dans des pays musulmans que dans des pays hindouistes ou notamment au Sri Lanka, là il s'agit de bouddhistes qui tuent des chrétiens parce que chrétiens, et ces fanatiques, en effet, ont parfois une sorte d'accord tacite de leur gouvernement qui est dû soit à des actes politiques de la part de ces gouvernements, ou alors une certaine passivité qui a également souvent un fond politique intérieur de leur pays. Par exemple en Algérie, où le gouvernement, depuis 2006, a édicté une loi contre le prosélytisme, et en fait cette loi ne sert pas à lutter contre le prosélytisme ou l'évangélisation, étant donné qu'il n'y a pas de complot chrétien pour envahir et pour évangéliser l'Algérie, mais simplement depuis l'an 2000, le président Bouteflika a lancé une politique de réconciliation de son peuple après les années de plomb qui ont pu faire disparaître en Algérie plus de 150 000 personnes tuées par les islamistes. Et à partir de l'an 2000, on a autorisé les terroristes en général à se repentir. Et ainsi, on les faisait rentrer dans la vie de la société.
Selon vous, ces persécutions sont liées à la faiblesse des États, des pouvoirs politiques en place ?
Ça n'est pas dû à la faiblesse. Parfois, ce sont des politiques délibérées du silence ou parce que dans le pays en question, il y a une grande majorité d'une religion et que les chrétiens sont des minorités, que par conséquent, les États, dans ce cas, les gouvernements, ne sont pas promptes à répondre ou à prendre des dispositions contre ceux qui persécutent les chrétiens. Parfois, c'est comme en Égypte, où les frères musulmans sont très importants, sont une réelle force qui compte depuis des années dans la politique égyptienne. Et là, le gouvernement laisse faire, là encore, ça n'est pas de la faiblesse, c'est simplement que la majorité est musulmane et que par conséquent, ce qui peut arriver à d'autres religions importe peu. On ne va pas se mettre à dos ceux de la religion dominante. Et cela, on le retrouve dans d'autres pays également.
Alors, vous dites que le silence des chrétiens en Occident est un silence coupable, un silence complice justement face à ces persécutions, et notamment des chrétiens qui sont persécutés là où le christianisme est né.
Oui, le silence est toujours coupable. Je dis que ce silence est coupable, mais encore faut-il comprendre aussi les raisons de ce silence en Occident. Et il est de différents types, et malheureusement, ces raisons s'additionnent. Il y a par exemple ce silence qui est dû à une certaine culpabilité que ressentent les chrétiens des pays anciennement colonisateurs. Alors, cette colonisation, on nous la reproche assez, et on part du principe dans certains pays, ex-pays colonisés, que la colonisation n'a fait que du mal. Il faut dire que nous n'avons pas toujours eu des attitudes louables. Les chrétiens de ces pays entendent souvent de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord, des appels à la repentance. On nous dit « repentez-vous, chrétiens », car on ne nous prononce pas le mot « chrétien », mais comme on associe le colonisateur européen aux chrétiens, car la majorité, la très grande majorité de ces colonisateurs étaient en effet chrétiens, eh bien, ça permet ensuite justement d'encourager les actes, implicitement les actes antichrétiens dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ces chrétiens aujourd'hui, auxquels on reproche ce passé, eh bien se taisent, parce qu'ils ne sont pas toujours fiers de ce passé, même s'il est lointain. Il y a également la laïcité mal comprise. Cette laïcité qui, dans certains pays d'Europe, et notamment en France, a aussi ses fondamentalistes. Et ils sont une véritable religion de fanatiques, parfois, au point qu'ils interviennent dans la vie publique si fortement que les chrétiens se sentent interdits de parole, alors que ce n'est pas le cas. Mais il n'est pas de bon ton de crier sa pratique religieuse quand on appartient à la majorité chrétienne de tel ou tel pays, et encore une fois, notamment en France. Donc voilà, autant de facteurs, et il y en a d'autres, qui confinent au silence des chrétiens qui ont tort de se taire.
Quand on parle de violence antichrétienne, on l'associe inévitablement justement à l'islam et à l'islamisme. On s'aperçoit, à vous lire, que d'autres religions, à commencer par l'hindouisme, pratiquent aussi ces violences et ces exactions.
Oui, mon livre qui traite de la christianophobie n'est pas un livre qui est un livre de revanche ou de prise de position essentiellement islamophobe. Non, dans ce cas, pourrait me traiter d'hindouistophobe, de bouddhistophobe, etc. Non, non, c'est vraiment une recension que j'ai faite comme un témoin. Puisque je suis allé sur place, je continue régulièrement et bien sûr, j'ai constaté combien dans ce pays que les Occidentaux voient un pays de paix comme à travers l'image de Gandhi, comme l'Inde, eh bien il y a des États, puisque l'Inde est composée de nombreux États autonomes les uns des autres, il y a certains États comme l'État de l'Orissa dans le sud-est de l'Inde, où finalement les chrétiens sont pas seulement persécutés, mais massacrés. De la même manière, on le retrouve d'ailleurs avec le bouddhisme, notamment au Sri Lanka. L'image que l'on a du bouddhisme en Occident, c'est celle du Dalai Lama, que l'on croit à la tête du bouddhisme international, ce qui est radicalement faux. Et il y a d'autres bouddhismes aussi qui déchaînent leur violence contre les chrétiens, et pas seulement contre les chrétiens, contre les non-bouddhistes. Et nous devons nous mobiliser, mais pas seulement les autorités religieuses, les laïcs, les politiques doivent se mobiliser comme le font certaines associations, comme le font certains individus, comme le font certains députés qui lancent des pétitions qui remontent à leur gouvernement et qui, de ces gouvernements, peuvent remonter à l'Union européenne, peuvent remonter aussi aux grandes associations internationales qui œuvrent aussi de leur côté.